take a load off.
I'm not too sure with the speed of the maintenance.
You know, I enjoy killing these Martians. Fire your laser.
Oh, no!
Bienvenue ce soir sur The Pinball Podcast épisode 12, saison 4. Je suis donc en compagnie d'Aetios, Nico, Sylvain et Zex. On commence tout de suite par la chronique de Nico. Nico, c'est à toi, c'est parti.
On va parler de Dutch Pinball et de leur initiative autour de DPX. Dutch Pinball, c'est un fabricant de flippers hollandais à qui l'on doit le flipper The Big Lebowski, sorti en 2016 et qui est toujours en production. En 2022, l'entreprise a doublé la taille de ses locaux, ce qui est toujours un bon signe, un signe de bonne santé ou de folie furieuse, mais dans le cas présent, c'est que tout va bien. Le 28 mars 2024, donc il n'y a pas très longtemps, à l'heure où on enregistre ce podcast, le fabricant a annoncé le lancement d'une sister company, comme ils disent, nommée DPX pour Dutch Pinball Exclusive. DPX va se consacrer à la production de flippers en quantité limitée, pas plus de 500 exemplaires et d'une qualité encore supérieure à celle de Dutch Pinball, on va dire classique. Melvin Williams sera aux manettes de la conception fonctionnelle et technique pour cette nouvelle gamme. Alors, pas facile de trouver le pedigree du bonhomme, mais j'ai réussi à avoir passé son nom sur des patentes américaines autour des flippers Retro Atomic, Zombie Adventure Land et Magic Girl. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs.
Ouais, c'est pas deux forcément
bon. Ouais, c'est ça. C'est deux machines à l'histoire mouvementée liées aux errements de John Popadiuk et d'un escroc ou deux au passage. Mais peut-être que notre gars Melvin, il avait rien à voir avec tout ça et que lui, la partie gestion, c'était pas sa partie. Donc, on va lui accorder le bénéfice du doute. Donc, DPX devrait bientôt annoncer son premier titre, résolument tourné vers les collectionneurs, un marché de niche, comme l'appelle le fondateur Barry Driessen. Implicitement, j'en conclus que les tarifs vont sensiblement dépasser ceux pratiqués par Dutch Pinball actuellement. C'est logique. Quand on dit collectionneur, on rajoute toujours des zéros. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette initiative? Alors, personnellement, je me réjouis, que Dutch Pinball annonce de nouvelles machines et développe sa capacité de production. Ça, il n'y a pas de problème. Déjà parce qu'ils sont bons, les gars. The Big Lebowski est une bonne machine qu'on a appréciée. Et ensuite, parce que tout ce qui rééquilibre les rapports de force entre l'Europe et les US, c'est bon pour nous, les joueurs du vieux continent. Ça ne concerne pas Zex du coup, mais c'est bon pour nous en Europe, en tout cas. En revanche, vraiment, je comprends pas l'intérêt de développer une filiale, parce que c'est vraiment une filiale dont il parle. Parce qu'on crée une filiale quand celle-ci intervient sur un marché connexe à l'activité de la société principale. Par exemple, chez Pinball Mag, on a créé la marque Pin Enhancer pour nos initiatives événementielles et tournois, pour faire la distinction entre notre activité média de Pinball Mag et notre activité événementielle. Ce sont deux activités complémentaires, mais qui ne se concurrencent pas. Dans le cas présent, chez Dutch Pinball, DPX est un sous-ensemble du marché de Dutch Pinball. Par ailleurs, le marché du flipper est déjà une niche, et le marché des produits européens à l'intérieur de cette niche, c'est une niche dans la niche, et elle n'est vraiment pas énorme. Sur les 10 dernières années, je pense qu'on ne dépasse pas les 5000 machines vendues, et encore, je suis peut-être un peu large. Rappelons qu'à ce jour, il n'y a que deux fabricants qui ont un peu d'historique de ce côté de l'Atlantique. Je dis qu'ils ont de l'historique, parce qu'il y a plein d'autres fabricants, notamment Hexapinball, que vous connaissez parce qu'on en parle souvent. Mais dans les deux gros qui sont un peu connus des deux côtés de l'Atlantique, il y a Pinball Brothers et Dutch Pinball. Le premier a à ce jour annoncé deux titres, Alien et Queen. Le second, un seul. Alors, quand je dis Alien et Queen, il vient d'annoncer Abba aussi, mais c'est tout récent. Et le second, il en a qu'un seul. Dutch Pinball, il a qu'un seul vrai flipper qui est The Big Lebowski. Donc on n'est pas sur un business installé du tout, on n'est pas sur un business solide. Et honnêtement, quand on se dit que DPX va faire des séries exclusives de 500 exemplaires max, il y a beaucoup de fabricants qui n'atteignent pas ces volumes-là aujourd'hui avec leurs machines dites grand public. Donc cette limite, elle n'a pas vraiment de sens. En plus de ça, 500 exemplaires, c'est les quantités annoncées des Stern Limited Edition à chaque fois. Donc, et pourtant, Stern, il n'a pas développé une marque fille pour ça. Il n'a pas démultiplié les marques. Ils l'ont même pas fait pour leurs machines commandées par des marques Stern. C'est-à-dire qu'ils avaient, par exemple, on se souvient du très mauvais Supreme, un flipper commandé par la marque Supreme. Et Stern, pour autant, n'avait pas fait une filiale pour gérer ça. Donc là, l'initiative de DPX là-dessus est un peu étonnante. À la limite, Dutch Pinball, ils auraient pu proposer une logique de gamme, c'est-à-dire un peu comme Premium, enfin comme Pro Premium Limited Edition, il y a une logique de gamme avec pas exactement les mêmes produits. À la limite, et encore, hein, si Laz me proposait ça pour Pinball Mag, je lui dirais que c'est couper les cheveux en quatre. Mais vu qu'il aime bien couper les cheveux en quatre, ça pourrait arriver. Alors, je vais vous donner mon avis qui n'est fondé que sur du raisonnement et pas du tout sur des preuves tangibles. Pour moi, ça sent la logique de précaré. Le Melvin, il voulait de l'autonomie. Et c'est avec ce montage-là que Barry Driessen, donc le fondateur de Dutch Pinball, l'a convaincu. Peut-être même que Melvin, il a des parts dans DPX, mais que Dutch Pinball reste la propriété exclusive de Barry ou de sa famille. Je connais pas l'actionnariat de Dutch Pinball dans le détail. Donc, si c'est pas ça, ça a pas de sens autrement pour moi. Enfin, je vois pas le truc. On a tendance à croire que les patrons sont rationnels, qu'ils sont voire froidement rationnels, que tout ce qu'ils font, c'est dicté par la calculette. Et ben, c'est souvent pas le cas. Comme on dit dans les grosses boîtes, les organisations sont autant biologiques que logiques, ce qui veut dire qu'un organigramme, c'est un mélange de raisonnement indépendant des personnes qui occupent les postes, mais aussi, c'est aussi l'adaptation ad hoc aux envies des gens qui comptent pour l'entreprise. Dans le cas de Dutch Pinball, je crois en l'arrangement entre deux personnalités, plus qu'en une stratégie en 18 bandes avec business plan ultra bien ficelé. Donc voilà, moi j'en ai fini là, je veux bien votre avis les gars, parce que c'est que mon avis à moi. Mais moi, je trouve que là, comme ça, ça raconte pas une super histoire au marché.
Alors, sur effectivement le truc de Dutch Pinball, c'est vrai que c'est assez surprenant comme programme, parce que bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, le nouveau gars dont j'ai encore perdu le nom, mais effectivement, il fait partie de deux projets qui ont été un petit peu à l'origine de couac, enfin de flop, on va dire, hein, ou même d'arnaque. Donc, je ne sais pas pourquoi ils sont allés chercher ce gars-là. Est-ce qu'on a des news par rapport à ça? Est-ce qu'on sait quelles sont les relations qu'ils ont pu entretenir ou pas du tout?
Moi, je crois que ça, Soirée Flip, il dit un truc intéressant. Là, il dit que DPX a la licence de tous les flips de Popaduke et que c'est pour ça qu'il y aurait une autre société. Et le Melvin ferait peut-être le lien, du coup. Tu vois.
Salut Seb, comment tu vas?
Et du coup, ça a du sens, quoi. Ça a du sens si c'est ça, ça l'explication. Après, les licences de Popaduke, il y en a pas 15 000 encore. Alors, s'ils nous ressortent le Raza et le Magic Girl. Alors, le Magic Girl, je pense que tout le monde serait content de le voir arriver parce que il avait eu une belle attente à l'époque et voilà. Mais alors, le Raza, s'il arrive, pour moi, ça a été tellement le summum du bullshit et de l'arnaque du monde du flipper que ça serait, moi je miserais pas de faire un flipper là-dessus.
Ok, cependant moi c'est un des flippers que, quand on a vu le proto, qui pour moi était le plus prometteur dans le terme innovation.
Ah oui, là je te parle en réputation et en image que ça renvoie.
On est d'accord, mais par contre en termes de banditude entre guillemets de projet, il y avait plein de trucs hyper intéressants qui étaient développés sur cette machine et si quelqu'un ressuscitait ça, alors je sais pas si effectivement quelqu'un ressuscite ça, est-ce qu'on va pas ressortir les vieux démons du placard et finalement on va retomber sur un truc, je sais pas si en termes de communication c'est un bon choix. En tout cas la machine, moi franchement elle me hypait quoi. Des zombies, une espèce de tablette tactile au niveau de la lock bar pour pouvoir avancer dans l'émission, du DLC possible, voilà, une nouvelle façon de lever le plateau, un nouveau fronton séparé en deux parties avec un côté vraiment rétro et un côté futur, des caisses qui étaient éclairées. Le projet, franchement, avait de la gueule. L'arnaque derrière, c'était bien évidemment, on va le dénoncer, c'est minable. Mais par contre, le projet en lui-même, enfin, de la machine, avait sacrément de la gueule, quoi. Et je crois que c'était Christopher Frenchy qui avait fait l'artwork, non? C'était.
Ah, je me souviens plus.
Eh ben, écoutez, on va voir. Effectivement, on va voir ça. Ça se trouve, c'est ça.
Alors, Zex, tu nous disais, enfin, tu écrivais dans le chat que pour toi, il y a eu environ 1500 exemplaires du Big Lebowski qui ont été produits ou vendus.
1500
ouais,
environ.
Ça me paraît peu.
Ah bah
non, moi ça me paraît énorme.
Ça vous paraît énorme?
Ah bah ouais. Bah,
pour moi, ça paraît peu, c'est étant donné que la machine a été produite pendant 8 ans. Mais d'après moi, le problème, c'est peut-être dans les premières années où est-ce qu'ils ont eu de la difficulté à sortir les machines. Je ne sais pas exactement pour quelle raison ils arrêtent de produire le Big Lebowski. Parce que quand je regarde, en fait, sur le marché de l'usager, on est plus cher que le prix du neuf. Donc, il semble avoir de la difficulté à écouler. Pas écouler, en fait, mais produire les machines pour les vendre parce que la demande est là. Donc, est-ce que c'est les droits qui sont arrivés à échéance? C'est pas comme s'il avait déjà toujours produit les machines en ayant les droits. Donc, ça, pour ça, je ne sais pas pourquoi, mais tant qu'à moi, il aurait dû... Il y avait encore de la place là, pour produire d'autres Big Lebowski. Pour revenir au sujet initial, moi, je ne connais pas toutes ces affaires-là en arrière. J'ai entendu un petit peu l'histoire de John Papadiouk avec les compagnies qui essayaient de relancer les machines, les compagnies qui essayaient de lancer les machines qui essayaient de mettre en place, que ça n'avait pas marché. J'en ai un petit peu entendu parler, je crois, sur la chaîne de Carrie Hardy. Mais je connais vraiment très peu dans ça. Par contre, je connais un petit peu le niveau juridique des entreprises. Et en fait, au départ, bien que je ne connais pas toute la situation, comme je vous dis, de Pinball Brother, que okay, je comprends qu'ils ont démarré une société sœur, la seule raison...
Dutch Pinball.
C'est quoi je l'ai dit?
Pinball Brothers.
Ah, excusez-moi. Oui, de Dutch Pinball. La seule raison, moi, que je vois pour partir une filiale comme ça, c'est pour enlever le risque de la compagnie principale. Donc, comme je vous dis, sans savoir toute cette affaire-là en arrière, puis de qui était Melvin, j'ai aucune idée c'est qui, la seule raison que je vois, c'est qu'ils veulent, en cas d'un échec de ça, ou que ça va mal, ils veulent pas que ça l'impacte la compagnie principale. Donc, moi, c'est ça que je vois, la raison pourquoi ça serait avantageux pour Pinball, Dutch Pinball, excuse-moi, alors, j'allais dire la même erreur, de partir une filiale sœur, c'est de faire en sorte que si ça part en couille, ça ne touchera pas la compagnie principale.
Alors, je rebondis juste sur la quantité. Tout à l'heure que tu annonçais, effectivement, Patou nous dit, pareil, ça me paraît peu sur les 1500 que tu nous disais, car rien qu'en France, on voit pas mal passer sur les réseaux. Alors, évidemment, ça peut toujours être les mêmes machines. Je fais un calcul rapide. Je suis nul en maths, hein, les mecs. Hein. Mais bon, sur 8 ans, voilà, 1500 machines, ça fait 188 machines, en gros, produits par an. Ce qui ferait par mois, lycée, hein, ça ferait 15 machines, ce qui ferait un chiffre d'affaires de 234 000 euros, parce que c'est 15 000 balles la machine, donc 234 000 euros. Donc finalement, ça peut se tenir. Économiquement parlant, ça a du sens. C'est pas complètement délirant. Après, je sais pas. Je sais pas. Enfin, effectivement, je pense que ça fait peu en 8 ans. Mais en même temps, on est sur une fabrication artisanale et puis j'ai confiance quand même dans l'analyse de Zex parce que plusieurs fois, il a quand même, même assez de nombreuses fois, c'est prouvé que ses théories étaient, enfin ses calculs étaient justes. Donc c'était pour juste répondre à Patou. C'est trop bien, ton masque Zex, tes lèvres bougent aussi, c'est trop bien. Donc tu as quand même des fans. Des ventes du flip barbecue de Montomeus. Alors ça, on va en parler peut-être juste après, mais là on reste focus sur le Big Lebowski, enfin en tout cas sur Dutch Pinball, mais on pourra en parler avec plaisir juste après. Salut Zig, merci à toi d'être là.
Pour aller dans ce que tu disais là concernant Dutch Pinball, faut savoir que les ventes, enfin en tout cas la production, et je pense que c'est un peu le sens du message de Soirée Flip aussi, la production n'a pas été flat en fait. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir beaucoup d'exemplaires au démarrage, et les batchs qui sont assez importants sont finalement que depuis quelques années.
Donc là, on lit
sur les 8 ans. Sur les 8 ans.
Ouais.
Mais je pense vraiment qu'au début, ils ont dû se poser des questions parce que les quelques modèles qui sortaient déjà, ils étaient panneux à mort. Ils n'en sortaient pas beaucoup. Ils avaient des problèmes de licence aussi. Il y a tout un tas de raisons derrière.
Ils ont sorti la licence alors qu'ils ne l'avaient pas. Donc, ils ont renégocié derrière. Et voilà, je ne sais pas combien ça leur a coûté.
Donc, les gros batchs et la production sortent depuis quelques années. Il y en a quand même beaucoup qui sortent. Et on voit d'ailleurs souvent passer des photos de leurs usines de prod, etc., côté Dutch Pinball. Et ça donne peut-être aussi l'impression qu'il y en a beaucoup, mais qu'on en voit de plus en plus parce que finalement ils commencent un peu à sortir. Mais au-delà de ça, moi je pense que les chiffres de Zex sont quand même plutôt cohérents. Enfin, on parle quand même d'une petite production.
Je suis d'accord. Je suis étonné en fait par la quantité et j'ai une réaction, on va dire, complètement spontané de mec. Voilà. Si un jour on me devait me dire tu préfères ton calcul à celui de Zex, je dis non, je préfère celui de Zex. Déjà que à 7 x 8, je ne l'ai pas. Bon, on ne va pas se mentir, hein, chacun ses compétences. Quoi. Soirée Flip, donc Seb nous dit Dutch Pinball s'est fait mettre une carotte par son sous-traitant en charge de fabriquer. Il a des dossiers, lui, hein, en charge de fabriquer les jeux, d'où le retard dans la fabrication. C'est parti en justice. Bon.
Bah, mais récemment ou il y a un moment, Seb on parle de quoi? On parle de récent ou pas? On est comme on est en train d'attendre comme s'il allait nous répondre sur live en fait. Et qu'il va dire en fait. Hein, donc, on peut enchaîner.
Le petit lag du retour avec le chat, ouais. Ça ne va pas être instantané. Puis s'il doit écrire un pavé, il faut aussi le temps qu'il le tape.
Ah, mais c'est sûr. Non, mais on verra ce qu'il nous écrit là-dessus. Mais... sinon, on va pour revenir à ton analyse, Nico. Hormis ces compléments qui avaient été rajoutés dans le chat, moi j'étais assez en phase. Hein. Je ne comprends pas vraiment. L'intérêt du coup de sortir une filiale annexe, sachant que tu as juste un flipper de produit pour l'instant qui déjà en soi, et je sais plus qui disait ça dans le chat, est déjà finalement un flipper de collection. Le Big Lebowski, c'est pas un flipper d'exploitation, enfin clairement pas.
Non, c'est pas un flipper d'exploitation et c'est pas les volumes d'un flipper d'exploitation.
Excusez-moi les gars, je vais juste gérer deux secondes parce que ma femme est pas là, je vais juste gérer et j'arrive.
Ça veut dire gérer les enfants.
Ouais, on peut faire n'importe quoi, on s'en fout, il écoute pas.
Vas-y, coupe tout à Ethios.
Je prends rien, les gars, là. Je prends rien pour vous, là.
Fais tout, attends, je lance OBS et je lui pète tout.
Alors, les blagues pédophiles. Vous connaissez celle du curé qui a... Ça commence sur blacklister en deux secondes. Tu sais.
Comment ça, on a été ban? Qu'est-ce qui s'est passé?
Tout ça pour dire que moi je souscris et j'achète énormément la remarque de Seb sur le fait que sûrement que le Melvin est venu avec des licences de Popadiouk. Mais encore une fois, ça veut dire, enfin, les licences de Popadiouk, ben ça date de Zidware. Attendez, je vais vous retrouver. Donc il y avait Magic Girl.
T'en as 3 ou 4, je crois, non?
Ouais, parce que le gars, il avait fumé la moquette. J'ai fait une excellente bio de ce monsieur-là, si vous voulez la retrouver sur.
Mais qui sont
vrai, on devrait faire du.
Bien sûr.
On devrait faire du rappel d'article pour que les gens aillent lire un peu ce qu'il y a sur le site, parce qu'il y a quand même plein de choses sur
ce site. Lisez, bordel. Donc il y avait du Magic Girl, moi, l'artwork, je trouve ça ouf. Il y a le Raza, effectivement, les Retro Atomic Zombie Adventureland. Oui, il y avait Alice in Wonderland, que quelqu'un a cité, d'ailleurs. Et effectivement, mais Alice in Wonderland, il n'est pas allé beaucoup plus loin que faire des artworks et des jolies images. Comme on a,
de ce qu'on sait, en tout cas, ouais.
Ouais, j'ai pas vu la gueule d'un plateau.
C'est sûr que non. C'est les droits, c'est les ayants droit Bally Willem, ça c'est une certitude. Tom, c'est pas Popadiouk.
Si,
mais c'est surtout Bally, quoi.
Ouais, Bally
Williams. Williams, ouais.
Lui, il était designer du plateau, mais ça ne veut pas dire qu'il avait les droits de ce qu'il a produit.
Oui, il était game designer, hein, mais les game designers n'ont pas les droits de leur... C'est ça, exactement.
Et concrètement, ça fera le lien avec la discussion qu'on va avoir avec Zex derrière. Mais s'il y a un Tom remake qui existe, donc un Theater of Magic remake qui existe, il sera chez Pedretti, vu ce qui a été annoncé. Mais on va y revenir. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse... le passage par chez Sylvain et sa rubrique Fallait oser.
Bon, je précise, j'étais pas inspiré pour celle-là, hein, donc faudrait être tolérant. Bon, vous savez ce qui fait vendre des flippers depuis quelques années, vous? Les licences, ça plaît. Et globalement, on arrive toujours plus ou moins à trouver des fans qui vont se reconnaître dans un thème ou dans un autre, même dans les thèmes les plus pourris. Et moi, j'aime pas trop les licences pour ma chronique, car c'est habituellement pas super osé comme genre de flipper. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y en a eu assez peu depuis le début, hein, hormis le Monopoly ou le Wheels of Fortune qui avaient pour le coup vraiment leur place dans cette chronique. Mais on n'avait pas encore eu de flipper sur une licence de film ou de série, parce que généralement, même si la licence n'est pas folle, la machine est toujours plus ou moins cool. C'est un peu le cas du Flintstone ou Johnny Mnemonic. Film à chier, mais flipper cool. Mais, il y a une marque qui revient assez souvent dans cette chronique d'ailleurs, et qui avait pour habitude de pas trop choper de licence officielle, car il devait pas avoir des masses de sous à investir là-dedans. Et d'ailleurs, les rares fois ils l'ont fait, ça a pas été une grande réussite. Je sais que vous l'avez. Cette marque qui a brillé dans l'ère des électromécaniques, mais qui a totalement foiré son passage au solid state. Vous l'avez? Bah ouais, Gottlieb. Et vous savez ce qu'ils ont foiré d'autre, Gottlieb, hein? Et bah leur sortie. Tu vois, dans la vie, tu as deux types de constructeurs. Tu as les grands, comme Bally Williams, hein, qui te sortent Cactus Canyon ou Monster Bash et qui s'érigent tout seuls au rang de légende. Et ça se confirme, hein, on se pignole encore sur leur machine 20 ans plus tard. Et puis, tu as Gottlieb qui décide, tel un poisson hors de l'eau qui suffoque, de tenter le tout pour le tout et de balancer une licence du tonnerre pour son dernier flipper en se disant que si, ça va forcément plaire. Et ben, après avoir parié sur Waterworld, hein, qui avait dû leur coûter un rein en 95, alors que le film s'est fait démolir et a par là même signé la fin de carrière bankable de Kevin Costner, ils enchaînent avec la pire bouse cinématographique de 1996. Mais il y a des gros seins dans le film, donc ça aurait pu marcher. Hein. J'ai nommé Barbed Wire, le dernier Gottlieb sorti avant la fermeture de la boutique en 96. Et là, normalement, il y a Aaron qui sort son mouchoir et qui pleure au moment où je prononce ces mots-là.
Ah, j'ai peur.
Ah oui, il peut aussi sortir son mouchoir pour d'autres raisons, parce que vu la gueule de la licence, bon. Alors, vous allez, je n'avais pas écrit ça. Ou alors, vous allez me dire, pourquoi une licence de film dans cette chronique? Mais parce que le film est nul, beauf, et qu'il y a Pamela Anderson dedans. C'est du gros film d'action débile où tu passes la plupart de ton temps à te marrer sur la performance désastreuse des acteurs et à contempler les formes voluptueuses de Pamela. Alors bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, déjà vous êtes à environ moins 10 000 points dans mon estime, hein, pour commencer, mais on va quand même détailler le truc, ne serait-ce que pour se rafraîchir la mémoire pour nous qui avons grandi avec cette icône. Ah, oh, mes draps s'en souviennent encore. Alors, Pamela Anderson, hein, pour beaucoup, ça se résume à un générique où elle et son 110B ballottent au ralenti sur la plage de Malibu, où elle court avec ses copines Yasmine Bliss et Carmen Electra, pendant que toi, t'as le kiki tout dur en regardant ça en pleine adolescence. Bah ouais, à l'époque, c'était des créatures jamais vues ailleurs. Hein. Aujourd'hui, t'as même plus de respect. La moindre greluche avec une jupette à la salle de jeu et des yeux qui crient braguette, elle te fait un TikTok en passant pour une timpe. Mais à l'époque, c'était plus classe. Et ça passait sur France 3. Bon, donc, je disais, Pamela, c'est grosse loche. Ça, c'est fait. Ses frasques, ses violences et ses sextapes avec Tommy Lee. Ah bah, les deux là, l'adage sex, drugs et rock'n'roll, ils prenaient tout son sens avec eux. Hein.
Bah, c'est clair.
Et puis, t'as aussi Pamela au cinéma. Bah ouais. Et là, comment te dire? Eh ben, c'est nul à chier. Hein. Elle joue comme un cul, la pauvre. Hein. Mais on va pas se mentir, hein. On n'est pas là pour le jeu d'acteur. Et ça, les réalisateurs, ils l'ont bien compris, hein, vu qu'ils lui font changer ses combinaisons en cuir toutes les quatre scènes pour des trucs de plus en plus vulgos. Et donc, en 96, quand tu t'appelles Gottlieb, tu te dis que ce genre de licence, ça va te propulser sur le devant de la scène ou au pire, te faire sortir avec les honneurs. Bah non, Gottlieb, il n'y a pas que des routiers et des piliers de comptoir qui jouent au flipper, hein. C'est cliché. Hein. Du coup, bah, c'est dans la droite lignée du film. Hormis la baglasse qui s'en sort pas si mal, design du plateau pas fou, hein, même si loin d'être pire. Je parle même plus du choix des couleurs, hein, totalement la ramasse, hein, mais bon, ça en a l'habitude. Et puis la superposition de plastique, hein, qui est pas terrible, mais au final, c'est même pas trop moche. Et niveau gameplay, bah, c'est pas pire non plus. Pas meilleur, mais pas pire. J'ai rien de bien plus fou à raconter sur cette machine, car elle est l'essence même de cette chronique. Un flipper pas mal sur un thème pourri. Et même si c'est un thème de film, et bah, c'est quand même un thème de film pourri. Et ça, quand t'es pris à la gorge en 1996, et bah sortir un flipper sur Barbed Wire, putain, Gottlieb, fallait vraiment oser.
C'était pas parti sur ça normalement ta chronique, hein. On est d'accord? T'avais dit que ça marchait pas sur...
Si, mais en fait, je l'ai fini à l'arrache. En fait, j'ai fait un peu d'impro, c'est pas vraiment ce que j'avais écrit, hein, ce que je viens de dire là. Mais parce que ça, en fait, ça marchait pas, parce qu'en fait, le je parle quasiment pas du flip. Et le flip, en fait, il est pas pire, hein, en soi.
Tu parlais de la sextape de Pamela et de Tommy. C'est la première sextape qui a fait le buzz de l'histoire du net.
Ouais, c'est vrai.
C'est eux qui ont lancé la mode, entre guillemets.
Et je pense que la deuxième, ça devait être celle de Paris Hilton, puisque ça arrivait à peu près dans les mêmes eaux à l'époque, tu vois.
Ouais. Donc... C'était pas la vidéo sur Internet, lui.
Hey, mais du coup, ça raconte quoi, le film Barbed Wire? Parce que je comprends pas, là, je vois, il y a une déneigeuse avec un mec qui a un Bouddha avec un truc de...
En fait, Barbed Wire, c'est une sorte de délire un peu... En fait, c'est issu d'un comics, a priori, et c'est une sorte de délire un peu post-apo, mais avec une nana hyper, hyper cliché, t'sais, genre hyper sexualisée, qui met des branlées à tous les mecs avec des flingues, quoi. Donc, un truc un peu débile, bien bourrin, un mix entre Expandable, Lara Croft et un film post-apo genre Blade Runner, tu vois. Donc tu mélanges tout ça, ça fait un gros gloobie-boulga, un gros n'importe quoi. Et tu regardes ça plus pour les performances entre guillemets d'actrice de Pamela Anderson. Mais regardez quelques extraits du film, vous allez vous marrer. Le ton de la voix, tu sens que la pauvre, elle est, mais c'est cliché, c'est nul à chier comme elle joue. Mais par contre, elle est gaulée, donc ça, à l'image, ça passe bien. C'est, en fait, c'est pas un navet. Il est considéré comme un nanar. Tu passes pas un mauvais moment. Mais c'est pas un bon film, c'est juste débile, quoi, c'est cliché.
Finalement, ça fait partie de ces films qui auraient pu être bons. Mais enfin, tu vois, je prends un autre exemple. Sin City ou ce genre de choses, ou même 300, qui sont adaptés de comics un petit peu à la base. Tu mets ça dans différentes mains de réalisateurs, ça peut vraiment partir en autre boudin, quoi, en jus de boudin, quoi. Et là, peut-être que c'est le mauvais réalisateur. En tout cas, effectivement, elle a tenté à une époque, effectivement, de pénétrer n'est pas le bon terme, je le retire, de rentrer dans le cinéma. Et finalement, bah, ça n'a pas tellement fonctionné, quoi.
Elle est rentrée, mais par la porte d'en arrière.
C'est voilà. Alors,
allez, Zex, on s'arrête.
Voilà, ami de la poésie, bonsoir. Nous avons notre ami poète Zex, académicien québécois de l'Académie des arts et des lettres.
J'ai pas fait une seule vanne, hein. Vous avez remarqué ?
C'est plus une chaîne de flippers ici, on nous demande. Salut, comment tu vas, Alex ? Alors oui, parce que moi, je suis allé voir un petit peu le plateau, mais le plateau est un petit peu dégueulasse, on est d'accord ?
Enfin, ouais, mais en soi, c'est loin d'être le pire des Gottlieb.
Ça aurait pu être pire, parce que, comme dernier thème, parce que quand Gottlieb a fermé, il était en train de faire Brooks and Dunn.
T'as dit quoi comme film? J'ai pas compris, en fait.
C'est Brooks and Dunn avec Tim Selleck.
Ouais, je sais pas. Mais en fait, j'ai regardé ce truc-là, et pour être honnête, j'aurais bien voulu approfondir le sujet, mais vu que j'étais en train de finir mon bout de chronique 5 minutes avant qu'on démarre le live, j'ai pas eu le temps d'approfondir. Donc, je regarderai pour la prochaine fois. Non, j'en sais rien.
En réalité, je me souviens que lors d'un podcast, j'avais fait un quiz où j'avais demandé qui a sorti le plus de machines. Et genre, oui. Mais Gottlieb, c'est juste des ouf.
Non, mais c'est stratosphérique. Ouf.
Je sais plus. Enfin, je sais plus. Il faut que je le retrouve dans mes fiches. Mais c'est un truc de malade comparé aux autres fabricants. Gottlieb, attention. On aime bien parce qu'on tacle notre Aaron national, mais en réalité, ils ont apporté énormément au monde du flipper et tout le monde s'est inspiré d'eux. Enfin, clairement.
Et juste, la chronique s'appelle Fallait oser. Donc, l'idée, c'est de prendre des flippers dont le thème était à oser. En aucun cas, on vient charcler le fabricant derrière. Hein. Et Gottlieb, on prend de la même manière que Bally en a pris, que Williams en a pris et que Stern en a pris aussi, tous, hein, depuis le début.
Tout à fait. Mais en tout cas, voilà.
On n'est pas en train de chier sur Gottlieb, il se débrouille très bien tout seul pour ça. Seb, quel troll. Mais ça n'en reste qu'il y a, et il y a plein de belles machines, mais avec des thèmes complètement éclatés pour beaucoup, quoi. Du coup, c'est rigolo, moi, ça m'alimente ma chronique.
Allez, on va passer à notre ami... Ah bah non, en fait, s'il est l'heure de raccrocher, je suis désolé. Eh non, on l'attend, notre ami Zex, avec son petite analyse qui va nous foutre encore des sauts de merde dans la gueule.
Yeah. Donc,
allez, c'est parti.
Je fais une Nico, petite intro.
Ouais. Voilà, Nico, je te laisse lancer, faire le lancement.
Ouais, vous l'avez sûrement vu passer, je crois quand même qu'on en a parlé lors d'un podcast. Pedretti a annoncé officiellement en fin d'année dernière qu'ils allaient sortir plusieurs remakes de l'époque bénie Bally Williams, donc des années 90. Et donc se pose la question et tout le monde on va dire joue sur les pronostics de savoir quelle machine Pedretti va sortir en premier, quel remake ils vont faire en premier sur l'ère Bally Williams. Donc on prétend pas, et Zex non plus, savoir ce que Pedretti a en tête, mais Zex va nous expliquer ce qui selon lui, d'après ce qu'il connaît du marché, serait pertinent de remettre en production au vu des codes des flippers, et il va nous expliquer tout ça. Et Zex, c'est à toi.
Parfait. Juste en fait, pour commencer, là, pour que les gens comprennent bien comment j'ai fait ma démarche, je vais dire quelques points en fait que j'ai observés qui peuvent influencer à la baisse ou à la hausse les probabilités qu'une machine... soit produite. Un point important en commençant, j'ai inclus les doubles thèmes. Les machines qui ont un double droit, probablement. Par exemple, on pourrait parler du Indiana Jones ou du Famille Adam, que non seulement il y a le droit de reproduire la machine avec le plateau et tout ça qui appartient à Bally William. Et en même temps, ben, il y a le thème, les droits pour le thème Indiana Jones ou La Famille Adam. Et ça, je ne sais pas juridiquement parlant comment ça fonctionne, Mais c'est sûr et certain que ça rajoute une couche de complexité à reproduire ces machines-là. Un point important, quand je fais mes estimations, je prends pour acquis que la qualité de finition de Pedretti qu'on connaît pas vraiment, qui n'ont pas fabriqué de machine, les autres qui ont juste fabriqué, à ma connaissance, des upgrades, des updates, si on veut, de machines existantes qui étaient Funhouse et Whirlwind, si je me souviens bien.
C'est ça.
Donc moi, je prends pour acquis là, que la qualité de finition de Pedretti, elle va être au moins aussi bonne que celle de Chicago Gaming, qui ont quand même là, établi la barre très, très haute là, dans ce secteur-là. Le nombre de ventes possibles estimé est en fonction du prix actuel des flippers originales. Basis, évidemment, je me sers toujours de Pinside, pour établir les prix là, du marché américain, puisque c'est là que passe le plus de machines. Et en même temps, ça va avec mon précédent, on avait parlé dans les podcasts précédents, là, la façon que j'établis mes estimés pour savoir combien il y a de machines en circulation. Donc, c'est le bout un petit peu complexe, mais je veux au moins mettre la table pour essayer là, que les gens puissent comprendre le plus possible. Mon classement, il est fait. Les thèmes sont classés par le nombre de flippers que le marché serait capable d'absorber. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une machine qui va être remake va probablement se vendre à 9 ou 10 000 balles US sur le marché. Et à ça, bon, ben, faut rajouter les taxes, il faut rajouter le shipping. Et donc, c'est sûr et certain que si on rajoute des flippers d'un thème existant, ça vient jouer sur l'offre et la demande. Et donc, forcément, le prix des machines originales, Bally William, va baisser si on amène des remakes pour le marché. Sur le marché, comme ça a été le cas avec Medieval Madness, Attack from Mars, Cactus Cayenne, Monster Bash, c'est le même principe pour ces machines-là. Le prix de vente des machines que j'ai estimé va être aux alentours de 9 à 10 000 $, ce qui est, quand on regarde... que ce soit Spooky, qu'on regarde Pinball Brother, sont toutes à peu près, ou même American Pinball, sont à peu près autour de 9 à 10 000, là, le montant qu'ils vendent les machines. Puis en même temps, évidemment, il faut prendre en compte que plus il y a de remake qui est fait d'un thème, plus le prix, évidemment, de l'original va baisser, plus le bassin d'acheteurs va augmenter et donc ça va faire une pression là, pour retenir un peu le prix des machines originales. Bon, maintenant que j'ai fini tout ce charabia-là pour expliquer ma démarche, on va commencer avec la première machine qui est, selon moi, la Indiana Jones. La Indiana Jones, j'estime qu'il y a en circulation sur le marché entre 3500 et 4500 machines et on a un prix actuellement au marché de 13 000 $. Donc, selon moi, le marché serait capable d'absorber un 3500 à 4500 machines, ce qui viendrait évidemment faire baisser fortement là, le prix des originales en dessous de la barre des 9 000 $.
Ah oui, c'est quand même une grosse, c'est une dévalue qui est quand même assez importante en fait.
Ah oui, totalement.
4 000, c'est 4 000 $ quoi, de moins-value.
Facilement. Ça va dépendre comment le marché va être capable, avec la récession évidemment qui est en cours du flipper, comment le marché va être capable de tout prendre ça. Ben oui, ça pourrait être une très forte dévaluation pour ceux qui ont des Indiana Jones. Mais encore une fois, je tiens à préciser que les probabilités de voir un thème comme Indiana Jones ou la famille Adams est plutôt faible. Ça peut être extrêmement rentable, mais c'est très compliqué au plan juridique à mettre en place.
Juste pour aller dans ton sens, Zex, là-dessus, enfin, il y a deux trucs. La remarque de Patou, là, techniquement parlant, c'est pas un flip qui paraît peut-être un peu compliqué. Bien rappelé, l'analyse de Zex, elle est sur ce qui ferait sens de produire au regard de la demande versus l'offre de ce qui compose aujourd'hui le marché. On ne parle pas de la technique là, on parle vraiment de ce qui pourrait être intéressant au vu de la demande. Et pour corroborer ce que tu disais tout à l'heure, Zach, sur la complexité même du thème, et notamment des ayants droit derrière, puisque Indiana Jones, arrêtez-moi si j'ai une connerie, mais c'est quoi? C'est Disney, c'est Universal qui sait qui a le...
C'est Disney
qui doit détenir les droits. Forcément, tu as du double droit, puisque tu as les droits à la fois du flipper Williams, mais également des droits de la licence en elle-même. Et pour aller dans ton sens, à l'époque, quand... Alors, c'était Fairside Studio qui avait les droits, avant que Zen les récupère les droits donc, de Bally Williams. Tous les flippers qui étaient des Bally Williams thèmes originaux sortaient dans des packs à des prix plutôt cohérents. Et tous ceux qui étaient avec des licences complémentaires, et c'était le cas par exemple du Doctor Who à l'époque, qui a pour ayant droit la BBC, étaient des flippers qui étaient sortis derrière avec du financement participatif sur des Kickstarter, parce que le montant était plus élevé parce qu'il fallait payer les licences. Et Indiana Jones, quand il est sorti, donc c'était il y a 2 ans, je crois, chez Zen Studio, est sorti au prix d'un pack de 4 flippers en ayant juste la table Zen Studio Indiana Jones. Donc, ce qui veut bien dire qu'à un moment, on payait très cher un flipper, là où d'ordinaire, on en avait 4 chez Zen Studio. Donc, il y a forcément une histoire de prix et de licence qui doit être beaucoup plus élevée. Et donc là, pour le coup, pour Pedretti, ça serait peut-être plus compliqué du coup de pouvoir s'aligner d'un point de vue financier là-dessus. C'était juste la petite parenthèse.
Comment qu'il parle bien, Sylvain. Je veux juste rebondir sur ce qu'il vient de dire aussi. Enfin, il y a un petit peu de ça. Il y a Nico Cara qui nous dit, parce qu'on en avait déjà parlé sur un autre podcast, j'ai pas l'impression qu'en France, les originaux Monster Bash ou Medieval Madness, en comparaison, ont baissé en cote depuis les sorties des remakes. Bah, oui et non.
La réponse à ça, si tu veux.
Vas-y, vas-y.
La réponse, c'est qu'eux autres, évidemment, si on prend, exemple, Attack from Mars ou Medieval Madness, ils ont sorti en 2015 quand le marché était déjà, là, j'avais vu le Medieval Madness, était déjà à peu près à 13 000 $ Et en fait, avec tout l'engouement depuis la pandémie, où il y a des machines ont pris un prix de fou. Et c'est une des raisons que, même avant la pandémie, Chicago Gaming a relancé la production des Medieval Madness parce que le marché était là, tout simplement. Il y avait encore les droits à ce moment-là. Et pendant la pandémie, même encore aujourd'hui, le prix des Medieval Madness baisse pratiquement pas alors qu'on est en récession. Parce que même avec... S'il n'y aurait pas eu les remakes, les Medieval Madness originales vaudraient à peu près 20 000 $ aujourd'hui sur le marché. Là. Donc, c'est vraiment... Si on peut... acheter Medieval Madness, que ce soit en 2015 ou aujourd'hui, le prix, toute version confondue, remake confondue, tourne aux alentours des 12-13 000 $ Mais ça, c'est juste parce qu'il y a les remakes qui ont fait une pression à la baisse sur le prix.
Alors, on est d'accord que... attends, parce que pour avoir vécu le cas, pour pouvoir me choper le Jaws, on est d'accord que les remakes valent plus que les originaux.
La version qui est totalement en haut, oui. Mais si on part avec le modèle de base, non.
D'accord, ok. Parce que moi, c'est... Merci beaucoup pour le follow. Parce que c'est exactement, en fait, le cas, là, c'est la revente du LE vaut, en remake de Chicago Gaming, se vend, à mon avis, plus que l'original.
Ça dépend peut-être de l'état aussi.
Oui.
Ouais.
Il était neuf.
Ouais. Je pensais plus aux originaux. Un original refait à neuf, je suis pas convaincu qu'il soit bien moins cher que celui que tu as vendu.
Je suis d'accord avec toi, Sylvain.
Je pense qu'il est au même prix, d'accord. Voire peut-être même plus cher.
Oh non.
Parce que c'est ça, l'original, le prix moyen du marché ou le prix médian, ça inclut ceux qui ont été achetés à domicile, qui sont en excellent état et qui se vendent un 18-20 000 $ mais ça inclut aussi ceux qui étaient, qui étaient dans des bars ou quoi que ce soit et qui ont été usés à côté.
En exploitation,
merci. Et qu'eux autres, ils sont peut-être vendus à 7 500 ou 8 000 $ parce que c'est un Medieval Madness, mais l'état est déplorable. Donc, c'est le prix médian de tout ça. Mais c'est sûr, certain que si on prend, exemple, un Medieval Madness original de Bally, de William, excusez-moi, qui est à l'état neuf, et un collector édition, je ne sais pas c'est quoi le nom, Royal Edition, les prix risquent d'être assez comparables. Parce qu'il y en a qui aiment le côté vraiment
vintage.
Oui, vintage, mais il y en a d'autres qui aiment le côté que tu as l'écran couleur, t'as les toutes les LED qui sont dessus.
Alors,
il y a pas d'user et donc avec le topper et tout ça.
Excuse-moi, je me permets de te couper parce qu'il y a trois bonnes réflexions sur le chat et en plus je vais aller dans ton sens sur ce que tu viens de dire. Ok, donc Nico Cara nous dit, ok, je comprends mieux ton point de vue parce que en gros, en fait, ça a davantage freiné la montée des tarifs des originaux. C'est ce que tu confirmes en fait.
Les deux exemples que je vais pouvoir amener après, qui vont vous montrer tout l'impact que les remakes ont sur un marché. Et je vais en parler à la fin, là, une fois que j'aurai fini ma liste.
Et tu vois, lors du Pin & Answer, j'ai discuté parce que chez Planète Jeux, on a eu la chance de pouvoir voir un Monster Bash en version LE avec notamment aussi du Cactus Canyon. Et j'avais des gens qui étaient aficionados, qui n'avaient jamais joué en fait, à des Chicago Gaming. J'ai eu trois témoignages qui m'ont dit « Putain, mais en fait, c'est mortel. » Mais je leur ai dit « Bien sûr que oui, c'est mortel. Il ne faut pas juste se référer aux puristes de l'original. Je comprends ces gens-là. Mais je comprends tout à fait aussi les gens qui disent « Non, mais je n'avais pas vu la machine comme si elle sortait d'il y a 25 ans, parce que ça fait 25 ans qu'elles sont sorties, ces machines, 30 ans. Et là, tu es en face d'une machine qui est juste formidable. Enfin, c'est magnifique. Le DMD Color qui est fait, le boulot qui est fait sur le Monster Bash ou le Cactus Canyon, entre autres, ou sur le Medieval Madness, ou même encore sur l'Attack from Mars de chez Chicago Gaming, est vraiment phénoménal. C'est vraiment, en termes de... T'en prends, mais vraiment... plein les yeux.
Je remets pas en cause le niveau de comment dirais-je de beauté des versions Chicago Gaming.
Ouais.
Par contre, je pense que le marché américain et le marché français, à mon avis, n'a pas les mêmes proportions, ne serait-ce qu'en unités vendues. À l'époque du Medieval Madness, du Monster Bash ou du alors Cactus Canyon, il y a peut-être un peu à part. Mais je pense qu'on a eu plus sur notre territoire des versions vintage, entre guillemets. Les versions Chicago Gaming, je ne suis pas certain qu'il y en ait eu tant que ça chez nous. Donc, il y a peut-être un phénomène de rareté qui fait que ton Monster Bash LE a plus de valeur à la revente en France qu'aux États-Unis. Après, je ne connais pas les valeurs de revente des Monster Bash LE aux États-Unis. Mais si c'est bien revendu à un tarif raisonnable, je pense que c'est aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, alors, je rejoins peut-être aussi le côté aspect vintage qui plaît plus chez certains parce que électronique d'époque, etc. Tu peux très bien mettre un afficheur couleur aussi aujourd'hui sur un Monster Bash LE, enfin sur un Monster Bash d'époque. Par contre, tu n'auras pas le truc avec la grande définition, les animations retravaillées, etc.
Oui, c'est pas la même chose.
Mais la grande définition, tu peux l'avoir. Tu n'as pas les animations retravaillées.
Tout à fait. Mais reste que. Je pense pas, vraiment, je pense... Alors peut-être que les sorties de Chicago Gaming aux États-Unis ont freiné la hausse des prix des anciens, mais je pense qu'en France, un Monster Bash ou un Medieval Madness, il n'a pas baissé avec la sortie des Chicago Gaming. C'est des flips qui sont toujours restés à des tarifs hauts. Et pour moi, alors, les 20 000, peut-être pas, mais plus de 10 000 pour un Medieval Madness, j'ai toujours entendu ça. Je pense que c'est encore vrai, même avec
Medieval Chicago. Ouais, mais la preuve que non, puisque Zex en fait, a publié récemment qu'il s'est chopé un Medieval à 7000 balles, 8000 balles.
7500 euros pour convertir dans 7500... votre affaire, c'est complètement fou. C'est vraiment un cas à part. Puis bon, je ne l'ai pas vraiment parlé parce que je me sens un peu mal, mais d'après moi, c'est une erreur d'affichage. La personne ne savait pas comment afficher sa machine. Et tu peux appeler un flipper, tu peux appeler un pinball, tu peux appeler une machine à boules, mais une machine à billes,
non, y a que ça. Non, stop. Il n'y a que vous. Machine à boules, il n'y a que vous. En France, machine à boules, tu finis à Pigalle. C'est comme ça.
Ouais, même encore, c'est très peu commun ici. Et lui, il avait marqué machine à billes. Donc, à moins que quelqu'un écrive vraiment Medieval Madness, c'était à peu près impossible de le trouver.
Mais bref, donc il croyait que son truc se vendait pas?
D'après moi. Puis je vais fermer ma gueule.
T'as vraiment chopé un médiéval à 7500 balles?
Ben oui.
Oui, une version de Chicago Gaming classique.
C'est impossible. En France,
mais surtout, je suis en train de me dire, Même avec le prix du billet d'avion, je peux toujours venir te cambrioler, ça sera toujours rentable. Hein. Même le temps que je le ramène en France, ça me coûte toujours moins cher.
Il est assuré pour le double, vas-y, il va pas payer l'original.
Et on sait que tu habites en pleine forêt, on le sait maintenant.
On sait où dans la forêt.
Il n'y a pas beaucoup de voisins.
mais par contre, attendez, parce qu'il y a eu plein de trucs super intéressants, et je suis perdu dans les commentaires là-haut. Le Cactus Canyon, on a beaucoup aimé avec ma femme. Oui, bah oui, bah je crois que c'est avec toi que j'en ai parlé justement avec Tom Tom, où tu me disais en fait que tu trouvais que c'était vraiment impressionnant cette mise à niveau. Sig qui nous dit Cactus Canyon, un truc de ouf, même s'il n'y a pas un code de ouf, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un flipper vraiment à part, hein, le Cactus Canyon. Mais clairement aujourd'hui. Et tu disais aussi si que ça concerne que certains, ouais, c'était là où j'en étais. Ça concerne que certains titres, ok, peut-être. Et il y a aussi Tom Tom qui nous disait mais les prix US ne changent pas par rapport à l'Europe. Quand on parle de 13 000 € pour un flipper, je me dis que l'Europe on paye plus cher par rapport à la taxe de douane et de transport. Bah oui.
Ah bah oui, ça c'est évident. Et tu peux rajouter.
Ouais, il semble avoir des petites exceptions. Par exemple, je sais que le World Cup Soccer. Il vaut moins cher en Amérique en termes de devises qu'en Europe. Probablement parce que le soccer, le football, comme vous dites, les Français, est beaucoup plus populaire en Europe qu'il l'est ici en Amérique du Nord.
Oui, je te confirme.
Oui, mais au même titre que tu ne trouveras pas des NASCAR chez nous parce que ça ne parle pas chez nous et que typiquement, cette licence, elle reste en Amérique. Juste par contre, je pense que Tom Tom parlait aussi du 9 quand il parle de 13K. Juste un petit rappel quand même pour ceux qui auraient oublié ce détail, mais qui a quand même toute son importance. Quand vous voyez des prix affichés en US sur du 9, n'oubliez pas que les prix sont hors taxe. Hein. Ce n'est pas la même chose que chez nous. Hein. Les prix... Hein?
Non, je dis déjà, tu as raison, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc, c'est pas les mêmes prix aussi. Enfin, la logique n'est pas la même. Quand vous achetez des produits aux États-Unis, les prix affichés sont les prix hors taxes. Donc, déjà, ça change par rapport à chez nous aussi.
Effectivement. Après ça, pour la deuxième table, on est avec Adam Fabelli, que j'estime environ à 4 à 5 000 exemplaires en circulation. On a un prix de revente qui tourne aux alentours des 11 000 $US. Et j'estime que le marché pourrait absorber un 2500 à 3500 machines. Ceci étant dit, 2500 à 3500 machines, on est dans les eaux du nombre de remakes qui a été fait pour Medieval Madness, Attack from Mars, Cactus Canyon, Monster Bash. J'estime que Chicago Gaming a fait à peu près le même nombre là, de 2500 à 3500 unités de chaque. Là. En troisième position, on a. C'est là que ça commence à devenir intéressant parce qu'on n'a plus de double thème, à part Twilight Zone qui est dans la liste, on va y arriver plus tard. Mais on a celui que je crois qui est le plus probable, le Tale of Arabian Night, que j'estime à 2500 unités en circulation, un prix de vente de 11 500 balles, et le marché pourrait absorber un 2 à 3 000 unités environ.
C'est cohérent ça. Ça serait une bonne idée en plus.
Oui. En quatrième position, on a le Circus Voltaire qui aurait entre 2000 et 2500 exemplaires en circulation. Prix de vente 10 900. Un 2 à 3000 exemplaires aussi que le marché serait capable d'absorber. En cinquième position, on a le Safecracker qui aurait 700 à 900 exemplaires en circulation. Prix de vente 11 000 $. Là, on est à 1500 à 2000 exemplaires que le marché serait capable d'absorber. Et là, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant parce que dépasser ça, le marché serait capable d'en absorber de moins en moins. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que plus ils vont, exemple, qu'ils vont faire le premier 1000 ou 1500 machines, le prix des originales devrait fortement chuter comparativement aux plus populaires comme ceux qu'on connaît, là, Chicago Gaming. En sixième position, on a le Twilight Zone qui, lui, avec, c'est un double, une machine à double droit. C'est sûr que Twilight Zone, je ne sais pas c'est quoi en français la traduction, mais ça risque de coûter pas mal moins cher.
La quatrième dimension.
Ouais, exactement. On est entre 4 et 5 000 machines en circulation, un prix de vente de 9 500 $. Et le marché serait capable d'absorber 1 000 à 1 500. Theater of Magic, 2500 à 3500 en circulation, un prix de vente de 9000$ et un 1000 à 1500$ encore une fois pour le quantité que le marché serait capable d'absorber. En huitième position, on a le Scared Stiff qui aurait 2500 à 3500 unités en circulation, prix de vente 9000$, un 1000 à 1500 exemplaires que le marché serait capable d'absorber. En neuvième position, on a le Creature of Black Lagoon. Il y a 2500 à 3500 exemplaires en circulation. Prix de vente, 8300. Et là, on serait à peu près à 1000 exemplaires que le marché serait capable d'absorber. Puis on a la même chose pour Whitewater. 2500 à 3500 exemplaires en circulation. Prix de vente, 7700 US et environ 1000 machines. Tous ceux qui n'ont pas été nommés, pour moi, il y a très, très peu de probabilité qu'on les voit. Tout simplement parce que je ne crois pas que les machines en dessous de 7500, qui sont actuellement en dessous des 7500$ US, quand je pourrais dire... J'en fais ma phrase, excusez-moi. Si on vend là, le prix des machines, là, 9 est vendu à 9000$ plus shipping, plus taxes, ben c'est dur... Convaincre les gens d'acheter les machines neuves quand vous pouvez en avoir en bonne condition, par exemple le Fishtail ou le Gateway 2, qui en très bonne condition se vendent aux alentours des 5000$. La marge de prix est tout simplement trop grande.
Mm-hmm. Oui, je comprends. Capable de faire ça. Oui, après, encore une fois, c'est comme je disais dans ma chronique, hein, c'est tout n'est pas toujours cohérent et la somme des contraintes et des envies des gens qui financent peuvent être différents. Et des fois, on se lance dans des trucs qui n'ont pas de logique économique complètement absolue. Mais en tout cas, ton raisonnement se tient.
Alors, totalement. Ouais. Juste pour finaliser, c'est qu'en même temps, tu sais, exemple, ils pourraient faire un Fishtail, un remake du Fishtail et tout ça. Sauf que je ne vois pas 1000 machines se vendre, à moins vraiment qu'ils fassent une version extraordinaire. J'ai de la difficulté à voir 1000 machines se vendre, comme je te dis, à 9000, à 10000, 12000$ quand la différence de prix est trop grande. Et s'ils ne vendent pas, pour moi, un 500 ou un 750 machines, je ne vois pas comment c'est possible de se faire ces frais. Parce que le profit, c'est là que Stern a un peu de la facilité ou même que Spooky sont capables de survivre. C'est qu'il faut que le coût de production soit faible et en même temps, il faut que les machines y sortent. Et le profit va être fait sur la quantité. Exemple, Spooky, ils ont une petite fabrique d'une certaine façon, mais tout est sous contrôle, tout est réglé au quart de tour et sont capables de sortir leurs machines. Les gens n'attendent pas 2 ou 3 ans pour avoir leur flipper. Les gens ont une marge de patience qui est très faible et ça, c'est sûr et certain que Chicago Gaming Company, ils ont perdu des centaines, peut-être même des milliers de ventes potentielles juste parce qu'ils n'étaient pas capables de sortir leurs machines.
Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, juste en parallèle, Jerry de Flipper VR nous a passé quelque chose qui nous permet de on va dire, d'éclairer la partie licence aujourd'hui. Ce qu'on disait, tu citais le Indiana Jones ou le Adams, où ça aurait du sens économiquement, mais tout dépend de la négociation, non pas de la licence, enfin, pas que de la licence Williams, mais aussi de la licence sur le film initial.
Et la vitesse sont capables de sortir leur machine.
C'est ça. On n'a aucune idée de la capacité de production de Pedretti aujourd'hui. En tout cas, moi, j'en ai pas. En revanche, sur qu'est-ce que ça coûte une licence aujourd'hui si on veut reprendre une licence comme ça, il se trouve que Farsight Studio, qui est un studio de développement de jeux vidéo de flipper, il me semble que c'est un concurrent de Zen Studio. Je dis pas de conneries, avec ça.
Une boule arcade.
Ouais, voilà. Ils ont fait un Kickstarter.
C'est eux qui avaient les droits avant.
Ouais, c'est ça. Ils ont fait un Kickstarter et ils ont donc partagé sur leur Kickstarter les montants des licences. Et par exemple, ce qui a marqué dans la fiche Kickstarter qui date de 2017, donc qui est suffisamment récente pour qu'on ait un ordre de grandeur, c'est que la licence Addams Family, elle leur coûtait 101 000$. Voilà. Donc,
c'est raisonnable.
Voilà, c'est raisonnable. Après il faut faire tourner le truc. Ça veut pas dire forcément que c'est que la licence c'est un prix en valeur absolue et que tu fasses des chaussettes ou des flippers physiques ou des jeux vidéo, ça sera la même. Mais ça permet juste d'avoir un ordre de grandeur, de savoir de quoi on parle, quoi. Quand même pour absorber 101 000$, Bah, il faut sortir 1000 machines, quoi, hein, pour que ça passe, que ça passe sans trop de problèmes. Même si on dit que c'était 200 ou 300 000 dollars, parce qu'ils voient le bon coup arriver, ils se disent qu'un flipper, c'est quand même 10 000 balles.
Est-ce qu'on a le prix, exemple, pour le Indiana Jones?
Non, parce qu'il n'avait pas Farsight n'avait pas négocié Indiana Jones. C'est Zen qui a négocié Indiana Jones. Okay.
Là, Eric nous a donné aussi, Jerry de Flipper VR, pardon, nous a donné aussi le Twilight Zone qui était à 55 000 dollars. Donc, bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes coûts de licence entre un jeu vidéo et un flipper. Mais voilà, ça vous donne un ordre de grandeur, quoi.
Ben, c'est pour le flipper, risque d'être beaucoup plus cher que ça. Mais Twilight Zone et Adam Family, même si on fait x5, si la compagnie vend justement 2-3 000 machines, les frais vont passer plutôt bien. Mais pour Indiana Jones, je ne suis pas convaincu même qu'on est juste à 1 million pour les droits, là, étant donné la grandeur de la franchise. Là. On est pas bien loin du Star Wars ou du Seigneur des Anneaux ou du Jurassic Park. Et ça, c'est pas pour rien que justement Stern fait énormément de machines de Jurassic Park et tout ça parce qu'ils sont capables d'absorber le coût parce qu'ils fabriquent des milliers de machines. C'est une des raisons justement que, exemple, American Pinball, après moi, vont pas chercher de licence. Parce que leur coût de production est très élevé et le coût des licences ferait en sorte qu'ils n'auraient pas le choix de vendre les machines probablement à un 9 ou 10 000, peut-être même plus, pour être capable de rentabiliser. Et comme ils savent qu'ils sont pas, qu'ils vendent pas 1000 machines d'un thème précis, qu'ils ne seront pas capables de la rentabiliser. Là.
Ouais, c'est clair. Du coup, pour toi, par exemple, un Medieval Madness Remake, toutes versions confondues, il a été produit à combien d'exemplaires?
Tu me prends un petit peu par surprise, mais d'après moi, on est autour du 6000, je dirais.
Et donc, enfin, Pedretti, c'est pas Chicago Gaming non plus, quoi. Hein, donc,
ils ont la réputation à faire.
Oui. Et puis, en volume de production, alors c'est pas des nains. Ils découvrent pas. Ils font en plus des kits dont on a parlé. Et ça fait longtemps qu'ils font des pièces détachées pour Flipper parce qu'ils avaient depuis longtemps les droits sur les Williams, quoi. Donc ils doivent connaître un peu leur affaire. Mais on voit bien quand même que ils se sont accoquinés avec Pinball Brothers, pardon, pour former Europinball Corp. On n'a pas vu non plus un raz-de-marée de flipper Pinball Brothers envahir l'Europe, quoi. Donc
je voulais juste réagir par rapport à ce que Zig dit en fait dans le chat, et puis bien évidemment a trouvé un écho chez Sylvain, hein, bien évidemment. qui dit l'inventivité des innovations des gadgets des années 90, c'était sans commune mesure avec les flips d'aujourd'hui. Je suis pas complètement d'accord. En fait, je pense.
Ça me la coupe que tu sois pas d'accord. C'est fou.
Non, mais je pense qu'en réalité, en fait, si tu veux, là où je suis d'accord, c'est qu'au niveau mécanique, il y avait de l'audace dans les années 90. Il y en avait peut-être un petit peu moins entre guillemets aujourd'hui. Et encore, c'est pas si sûr parce que vous prenez juste le Magna Grab du Godzilla, qui est quand même un truc assez fou parce que à un moment donné, si vous regardez bien, la bille, en fait, non seulement ça l'attrape, mais ça vous la met dans une certaine position pour préparer un des shoots. Et rien que ça, déjà, c'est assez... mécaniquement, c'est un truc assez fou. La chose qui différencie vachement aujourd'hui les mécaniques d'hier à aujourd'hui, c'est qu'en fait, elles sont couplées avec du code. Alors, je sais bien que le code, ça plaît pas encore à tout le monde. Mais je prends un exemple du Stranger Things. Alors, Sylvain va me dire non, parce qu'effectivement, lui, il a préféré prendre un pro. Mais en tout cas, le mapping, c'est-à-dire que dès que vous passez à une version premium ou LE, vous avez du mapping avec le vidéoprojecteur, c'est juste hallucinant. Vous avez des choses comme ça qui arrivent sur les nouveaux flippers que vous ne trouviez pas en fait à l'époque des années 90. Je pense que c'est deux mondes un petit peu différents. Je pense que c'est deux mondes complémentaires. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Par exemple, on parlait de Dutch Pinball tout à l'heure. Le petit jeu de quilles qui se trouve en Under Playfield, il faut le faire. À l'époque, je ne pense pas que les mecs étaient capables de le créer. aujourd'hui, c'est vraiment... pour moi, c'est un des mini-plateaux qui est un des plus spectaculaires dans le monde du flipper. Réellement, hein, voilà.
Et on parle d'une machine à 13 500 $ US là, qui se vend actuellement. Là.
Oui, c'est ça.
Le prix est là, puis c'est ça. T'sais. En fait, sur le Discord, tu disais là, que tu trouvais le Medieval Badass surcoté. Ben, en fait, moi, je le regarde à côté de mon Big Buck Hunter Pro. Je veux dire, c'est fou. Tu sais, la différence, je l'aime là, le Big Buck Hunter, mais c'est fou tout ce que... Tout ce qu'il offre, tout ce que le plateau offre, on n'en fait plus. Là. C'est pas pour rien que c'est parmi les derniers flippers qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont mis toute la gomme pour essayer de relancer, pour essayer de vendre une quantité phénoménale de machines, comme c'était le cas au début des années 90. Et ils n'ont pas été capables. Et quand ils ont compris que regarde, la marge de profit est trop faible, même en vendant 4000 machines, ben, on arrête d'en faire. C'est comme ça que ça s'est fini. C'est pour ça que les meilleures tables, on parle de Cactus Canyon, Monster Bash, Attack from Mars, c'est tout parmi les dernières machines que Bally William ont faites, la Circus Voltaire, et c'est ceux qui ont le moins vendu. Mais c'est ceux qui offrent le plus comparativement.
Tu prends même les Pitbull 2000 si on veut partir là-dessus. Et pour aller sur le terrain que maîtrise très très bien Sylvain, dont il m'avait déjà parlé et que je n'avais pas vu jusqu'au moment où j'y ai joué avec lui au salon de Pontac, c'est Dracula, cette bille entre guillemets dite fantôme qui traverse en fait le plateau, c'est juste génial.
C'est la merde à entretenir, putain.
Alors par contre,
ça marche
mal. Ouais, c'est un mécanisme de merde, on est d'accord.
Mais
quand ça fonctionne, c'est juste génial. Mais je pense que il y a des choses. Et là, je vois Alex de Hexapinball qui est là. Mais par exemple, un truc tout con, hein, tout con. Hexapinball a fait une putain d'innovation que même les plus gros fabricants mondiaux n'ont pas fait, de mettre le flipper sur pause. De mettre, c'est tout con, mais ça vous l'avez pas forcément entre guillemets physiquement, vous l'avez au niveau en fait de l'application, au niveau du code, vous voyez ce que je veux dire, au niveau de l'électronique. Donc SIG disait juste un peu plus haut, oui, la technologie ils l'avaient pas nécessairement, ça c'est clair qu'au niveau smartphone et puis application ça ils l'avaient pas, mais en tout cas ça c'est l'innovation française, c'est Hexa qui l'a fait. De mettre son putain de flipper sur pause pour 50 000 raisons. Hein. Je vais aux chiottes, mon gamin me demande un truc, on sonne à la porte, j'étais en train de faire la cuisine et puis finalement l'eau déborde. N'importe quelle raison. Mais cette innovation, elle est juste géniale, elle est juste démentielle. Et ça, c'est plus du code. Donc je pense qu'aujourd'hui, en fait, les innovations, on les aura peut-être moins un petit peu au niveau physique, technique, et encore, on pourrait être surpris. Parce que on pourrait encore faire des choses qui sont assez surprenantes, mais clairement, je pense que aujourd'hui, ça va être vraiment l'alliance, le mariage entre la technique et la technique au niveau physique et la technique au niveau numérique qui va permettre de faire des avancées au niveau flipper. Je sais pas ce que vous en pensez.
C'est plus, ouais, c'est plus la même époque, c'est plus les mêmes machines et en effet. Les deux sont, moi je charrie, hein, mais les deux en fait sont pas comparables parce qu'en fait t'es pas du tout sur les mêmes évolutions technologiques, t'es pas sur le même marché, t'es pas sur les mêmes besoins. Donc là où à l'époque t'étais obligé de feinter vraiment avec de la technique déjà parce que les machines se vendaient bien et que finalement vu que t'avais pas la complexité du code, en tout cas la même complexité du code et les mêmes possibilités techniques, bah en fait c'était beaucoup de mécanique, c'était beaucoup de toy en fait. Et c'est ce qui différenciait les machines et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a tout l'amour du flip, c'est parce qu'à un moment on se souvient de ces toys-là, on se souvient. D'avoir joué à telle ou telle machine au Terminator 2 qui balançait sa bille, au Monster Bash avec ses trolls, etc. Enfin, c'est des choses qui nous ont marqué parce que c'était des éléments sous la glace qui étaient marquants. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins ça. Mais aujourd'hui, tu as toute la complexité du code qui vient justement faire un mix plutôt intéressant entre les deux. Et quelques évolutions, comme tu l'as souligné, comme le Retro Brush sur Stranger Things ou autre. Juste, je voulais rebondir sur ce que disait TomTom un peu plus. Il disait le prix des machines et la popularité des flippers est peut-être moindre que l'arcade et du coup ça freine de faire des remakes. En fait, les deux sont pas comparables. En fait, si tu regardes bien l'arcade, ce qui fait qu'aujourd'hui l'arcade allemand en poupe, c'est uniquement le fait que déjà la plupart des constructeurs qui balancent des bornes qui ont de bornes que le nom, hein, c'est des grands bar top, c'est des bouts de bois avec des écrans et puis des Raspberry ou des points de Rabox chinoises de merde. Déjà d'une, ils payent pas les droits. En vendant ça. Et oui, c'est de la merde les points de Rabox. J'en ai, donc je sais, je peux le dire. J'en ai deux, mais c'est pratique. Le truc déjà d'une, ils payent pas les droits, et de deux, en fait, tu ne vois que des bornes génériques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une coquille vide dans laquelle tu viens mettre des jeux vidéo. Donc c'est pas comparable avec un flipper. T'as pas de flipper générique. Un flipper, c'est une machine en tout. Si tu voulais comparer des flippers, il faudrait les comparer avec de l'arcade et des machines dédiées. Et en l'occurrence, il n'y a aucun remake de machine dédiée qui a jamais eu lieu, enfin, à ma connaissance. Je pense que ce n'est absolument pas faisable et ça sera de toute façon jamais fait, puisque ça n'a absolument aucun sens aujourd'hui de vouloir ressortir des bornes dédiées. Donc tu verras jamais une House of the Dead qui sera remake aujourd'hui et qui sera poussée. T'as pas de marché là-dessus. Donc clairement non, le flipper est pas comparable avec l'arcade là-dessus. Et c'est un marché propre qui aujourd'hui fonctionne très bien. Mais l'arcade ne marche pas comme tu peux l'imaginer.
Je vais même aller plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui l'arcade ça ressemble plus à rien. Dernier jeu arcade.
Ça ressemble plus
à rien. Ouais,
c'est son micro l'a censuré. C'est voilà.
Il y a pas de grande évolution.
Bah oui, on te dit qu'il y a un guet depuis 3 heures. C'est pas pour te faire chier. Donc l'arcade ressemble plus à rien, c'est ça que t'as dit?
Ouais, non, ça ressemble plus à rien. Aujourd'hui, tu peux pas one-créditer un jeu d'arcade, par exemple. Ça n'existe plus. Comme tu pouvais le faire sur Metaslug, aujourd'hui, c'est tu passes un niveau, tu repayes pour le niveau d'après.
Exactement.
Bien sûr.
Bah ouais.
Tous les jeux de bagnole, c'est comme ça. C'est n'importe quoi, l'arcade, maintenant. Ça ressemble plus à rien.
Non, mais c'est ça, c'est plus du tout comparable. Et puis, encore une fois, si on voulait comparer, ça serait, comme je dis, ça serait des bornes, des remakes de bornes dédiées versus des remakes de flipper. Et il n'y a pas de remake de bornes dédiées. Donc, non, le flipper marche très bien et n'est pas comparable avec l'arcade. L'arcade s'est cassé la gueule depuis des années, oubliez ça, ça n'existe plus.
Nico Cara nous dit un très bon truc, l'innovation ne porte pas que sur la techno, Scooby avec son batteur double, ça paraît con, mais c'est super efficace, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, une fois de plus, je pense qu'il reste à explorer au niveau mécanique, je pense qu'au niveau code, on est au balbutiement de ce que peut faire le flipper. Zig nous disait un petit peu plus haut, les plateaux Stern se ressemblent hormis la licence, je ne suis pas d'accord là-dessus. Parce qu'il
moi non plus, ouais.
Il y a quand même différents designers. Tu vois, par exemple, je reprends l'exemple et je vous invite demain soir à me rejoindre sur le live du Jaws parce que c'est un fan layout et je vais en parler justement parce que souvent les gens critiquent le fan layout. Et alors Nico n'est pas tout à fait d'accord que c'est pas tout à fait un fan layout parce qu'il y a un petit bâton.
J'ai rien dit, t'as vu ?
Mais non, mais c'est très bien. Mais non, mais je suis d'accord avec ce que tu soulèves. C'est pas dénué de sens. Mais en réalité, une fois de plus, aujourd'hui, ce qui fait réellement la différence entre les différents flippers, c'est une fois de plus, c'est l'alchimie, les gars. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez, et pour le même designer, hein, Brian Eddy, vous prenez un Attack from Mars et vous prenez un Stranger Things, ce sont deux fan layouts, le même designer, et ça n'a rien à voir. Le gameplay n'a rien à voir. C'est complètement différent. Donc voilà, il ne faut pas résumer que ça. J'entends ce que vous dites, mais c'est pas résumé aussi simple. Et pour moi, l'exemple ultime, c'est le Venom, une fois de plus, qui a été décrié juste parce que des gens s'emmerdaient sur Internet et n'avaient pas d'autre chose à faire que de critiquer ce flipper plutôt que de l'acheter. Et réellement, ce flipper est une putain de tuerie. Et c'est justement la mécanique. Alors, une fois de plus, je mets le pro à part. Voilà, mais sur le premium OLE, c'est la mécanique qui change tout. Le pro est très bien sur le Jaws. Voilà, je défendrai mon point de vue demain.
Je dois dire que le Venom est une merde, tout simplement, parce que je veux qu'il reste bas pour en acheter une.
Lui, j'aime bien parce qu'en fait, je peux le balader, mais n'importe quand. En un clic, il n'existe plus.
Non, mais t'as raison.
Que le Venom, pourquoi tu disais que c'est...
Non, mais c'est une farce, mais j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à un. Il n'y en a pas vraiment dans mon coin. Mais quand je regarde sur Internet, je suis un peu indifférent pour le thème. Mais pour vrai, pour toute le story et tout ça, le code, il a l'air vraiment génial. Puis,
ah oui.
Actuellement, c'est... le marché, justement, on en reparlera plus tard. Là, on s'en était parlé, mais le marché, même pour le Venom, le prix dégringole. Et non seulement, ils n'en ont pas vendu beaucoup, mais le prix ne se tient pas actuellement sur le marché de la revente. Et donc, ça peut faire en sorte que ça soit...
Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ça sera le... Excuse-moi de te couper, mais ça sera le prochain bon investissement. Et je reprends juste Nico Cara qui nous dit « sans filtre le Zex ». Et c'est comme ça qu'on l'aime.
Oui.
Non mais c'est honnête, hein, les gars. Moi, j'aime bien, en fait, hein, quand tout le monde a ses avis. Et vous avez vu, on peut avoir très bien des avis tranchés. Mais à chaque fois, les avis tranchés sont respectueux. C'est ça que j'aime, en fait, sur notre chaîne. Merci, RG Walker, pour le follow. C'est vraiment ça que j'aime sur notre chaîne. C'est le côté... Voilà, tout le monde, une fois de plus, vous êtes pro-PP, anti-PP, ça ne me pose pas de problème. Honnêtement, ça ne me pose pas de problème. Mais soyez respectueux avec les... Et ce que j'aime dans l'analyse de Zex... c'est qu'il ne va pas juste dire « c'est de la merde, connard ». Voilà. C'est, il va argumenter, il va te donner son point de vue que tu peux, dans lequel tu peux, dans le sens dans lequel tu peux aller ou pas, hein, une fois de plus. Mais c'est pas dénué de sens, c'est pas dénué de raison. Et c'est ça qui est important. C'est ça. Nous, on engage vraiment la communauté à aller vers ce chemin-là, qui est vachement plus vertueux que de faire du bashing gratuit. Et voilà. Mais je te laisse finir là-dessus. Effectivement, Zex, c'est le code qui va vraiment tout changer sur la Venom.
Effectivement. Et si je peux finir, là, mon...
Vas-y.
Oui, bien sûr.
J'avais deux exemples que j'ai sortis là, sur la pression qu'un remake sur la valeur, fait sur la valeur d'un prix, du prix des usagers. Le premier, c'est le Cactus Canyon original. Le prix où ce qu'il a atteint son pic, c'est en janvier 2018, donc avant la pandémie. On était à 13 900 $ US en valeur médiane sur le marché. Juste avant la pandémie, on avait descendu à 10 500 $ Et là, il y a une petite corrélation à faire parce qu'il y avait déjà les rumeurs, et si je ne me trompe pas, il y avait l'annonce de que Chicago Gaming allait faire un remake. Et malgré que le marché, là, on avait un 600 à 800 original en circulation, Chicago Gaming ont rajouté au moins 2500 machines sur le marché. Et actuellement, le prix est à 10 200 $ aujourd'hui, malgré là, la pandémie. Là. Donc, le prix a, avec même avec la pandémie, le prix a diminué avec les remakes qu'on a sortis là, en date d'aujourd'hui. Le deuxième exemple, c'est le Jurassic Park Limited Edition. Il est plus récent, celui-là. Au mois de mai 2023, donc il n'y a même pas un an, on était à 18 600 $ en moyenne au prix de la revente sur le marché là, des versions LE usagées. Le 40e anniversaire...
30e,
excuse-moi. Le 30e anniversaire sort en juillet. Et le prix, trois mois plus tard, au mois d'octobre, il était déjà à 14 000 $ pour les usagers. Et aujourd'hui, on est à 12 000 $ Donc, et ça, en plus, faut prendre en considération qu'il y a des modèles pro et premium qui viennent diluer. C'est pas juste des LE, là. Il y a des pro et premium qui viennent diluer un peu la valeur. Donc, juste pour dire, on a perdu 6 000, cette machine-là a perdu 6 600 $ soit plus de 30 % de sa valeur en moins d'un an. Juste parce qu'on a rajouté 500 machines.
Et donc, tu dis que en fait, les reruns, non pas seulement de LE, parce que pour moi, ce n'est pas tellement des LE, c'est encore une autre version, mais admettons, ça fait une part des choses, mais surtout aussi le fait que la machine soit en premium, soit toujours produite. C'est aussi ça qui... D'accord.
Oui, parce qu'essentiellement, ceux qui vont... Tu sais, il y a des gens qui veulent, des collectionneurs, exemple, qui veulent juste avoir des LE. Eux autres, ça les intéresse pas. Mais s'il y a une version encore plus premium, pas premium, mais plus rare, plus élitiste, si on veut, qui sort, ils veulent obtenir celle-là. Et ben la différence entre les premium et les LE, on va le dire, il y en a très peu de façon générale. C'est des affaires esthétiques, c'est des lumières autour des speakers, peut-être, non, même Mazer Topper, mais c'est même pas le cas. Du moins pas chez Stern. Et y en a quand la différence est trop grande. Si la différence entre le prix premium et LE est faible, comme ça peut être le cas avec, exemple, les Tortues Ninja, pour un exemple comme ça, les gens vont préférer prendre le LE, ce qui va maintenir un prix haut, mais qui va faire descendre le prix du premium. Si la différence est trop grande entre le premium et le LE, les gens vont aller pour le premium.
OK.
Mais oui, et tout ça, et avec tout ça, tu revenais sur le sujet de, on n'a pas vu forcément les prix baisser après la sortie de certains remakes, et là tu disais tout à l'heure, on n'était pas toutes choses étant égales par ailleurs, parce qu'il y a eu l'effet pandémie qui a complètement vrillé le marché, avec des exemples plus resserrés, ceux que tu viens de citer, tu fais la démonstration que oui, quand il y a des nouvelles machines qui sortent et qui reprennent le thème d'une machine précédente, que ce soit un rerun ou un remake, si on parle d'une machine des années 90, eh ben oui, ça fait baisser le prix. OK, pour moi, c'est super clair.
Effectivement, puis même dans le prochain podcast qu'on fera dans les semaines, les mois à venir, c'est sûr que je vais parler, exemple, du Elvira, que le Blood Kiss, qui est sorti, et ça le fait dégringoler le prix des LE, là, qui est des limited edition. Et là, je crois, si je ne me trompe pas, ce mois-ci, il relance je ne sais pas si c'est le mars, avril ou mai, mais il y a un mois qui relance la production des Elvira Premium. Et donc, parce que le prix sur l'usager, il est, je pense, à 10 000 $ pour les premiums. Et bien, Stern, ils savent qu'ils vont pouvoir en vendre des 9 à 9 600 $. Et là, le prix des premiums devrait baisser fortement, là, avec des nouvelles machines qui vont arriver sur le marché.
OK. Okay. Et donc, en ce qui me concerne, mon 40e anniversaire Elvira, il baisse ou il augmente ou il stagne?
Le 40e, il baisse un petit peu. Moins que le LE, par contre.
D'accord. Et comment tu l'expliques, ça?
Tout simplement parce que là, on est rendu... Un, eux autres, ils n'ont pas de modèle pro. Ça, ça viendrait beaucoup faire baisser le prix. Mais c'est vraiment les gens, bon, ils vont vers les... Autrement dit, toi, dans ton cas, c'est qu'il y a la LE, tu as le 40e, puis il y a le Bloodkiss au-dessus. Le Bloodkiss, lui, conserve plutôt bien sa valeur, mais j'ai été étonné de voir qu'encore aujourd'hui, il y en avait qui se vendaient new inbox.
Alors, tu es en train de dire que le Bloodkiss, pour toi, aurait plus de valeur que le 40e?
Non, je crois pour une raison. Pour une raison que je ne peux pas expliquer, le 40e a une valeur actuellement qui est plus haute si je ne fais pas erreur.
Mais selon moi, je comprends c'est ce que tu as dit dans un précédent podcast.
Et je comprends pas parce que moi, personnellement,
le plus rare, c'est le collector. La signature. C'est le signature, c'est 50 exemplaires.
80, alors, je pense.
Quoi?
80.
Ah non, je crois que c'est 50. Enfin, après, voilà, 80
ou 50.
En tout
cas, c'est beaucoup, quoi. À 30
près.
Voilà,
c'est pas beaucoup. Ouais. Mais et encore, ce qui est assez drôle, c'est que sur Spinside, en fait, le 40e, le 40e, en fait, est encore au-dessus, en fait, de la signature en termes de valeur. Ça peut s'expliquer pour deux choses. C'est que le 40e, en fait, avait des gadgets, enfin, des choses qui sont supplémentaires par rapport à la signature. Et aussi, à l'inverse, la signature, comme il y en a beaucoup moins, il n'y en a pas forcément beaucoup moins en vente également. Donc, ça peut un petit peu aussi biaiser, en fait, le calcul.
Non, mais les chiffres ne sont pas significatifs.
Voilà. Pour le LE, là, il y a 400 produits. Puis le 40e, il y en a 199.
Oui, 199.
Donc, c'est pour ça qu'il est juste plus rare. Puis les gens veulent toujours posséder là, ce qui est plus rare. Fait que comme celui-là, il est à 500. Mais pour moi, il est plus beau que toutes les autres. Mais c'est ça, actuellement, on est...
Que dalle, il est très beau, mais il n'est pas plus beau que le 40e. Le mec qui défend son beefsteak.
Mais non, mais surtout, il est fondamentalement différent. Enfin, tu vois, noir et blanc, je pense que ça peut s'expliquer aussi pour ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tu m'offres la possibilité, j'ai le choix entre un 40e anniversaire ou un Bloodkiss, je prends le 40e anniversaire. Non pas parce que... mais c'est juste qu'en fait, j'ai envie d'avoir le plateau coloré, j'ai pas envie d'avoir un truc noir et blanc. Moi, ça me plaît pas et ça, enfin, c'est particulier. Ça dénature un peu le truc aussi, donc ça me surprend pas que les gens se l'arrachent pas non plus. Hein.
C'est ce qui me rebutait, par exemple, sur le The Munsters.
Exactement.
Premium qui était en noir et blanc.
Je suis d'accord.
Merde, fait chier, quoi.
Moi, j'aurais pas du tout voulu la version premium en noir et blanc. Ça m'aurait pas du tout intéressé, tu vois.
C'est peut-être
bon, après, le flip, c'est une merde et dans toutes les versions, il est pourri. Mais après, c'est...
Oh là là.
C'est peut-être une des raisons que c'est mal vendu le Munsters.
Vous me l'avez énervé.
Ah, mais c'est vrai. Entre ça et Led Zeppelin, mon anus balance.
Je prends le Monster sans aucune
commune. À tous les jours, ouais, quand même. Faut pas déconner. Ouais.
Bah, on a peut-être fait le tour, les gars, amis, là, non ?
Est-ce que tu peux juste nous rappeler les 10 flippers que toi, tu... Voilà, parce que là, pour une fois, vous avez quand même quelqu'un qui annonce, et non pas sur des rumeurs, des bruits de couloir ou quoi que ce soit, mais sur de l'analyse. Donc, est-ce que tu peux, selon ton analyse, nous rappeler les 10 flippers, selon toi, qui vont être produits?
Oui, le Indiana Jones, Adam Family, Tale of Arabian Night, Circus Voltaire, Safecracker, Twilight Zone, Theater of Magic, Scared Stiff, Creature from the Black Lagoon et Whitewater.
Ok. Bon, eh ben écoutez, moi j'adore ce genre de moment parce qu'en fait l'avenir nous donnera tort ou raison. En tout cas, merci beaucoup Zex pour cette analyse. Une fois de plus, on parle sur des faits, pas sur des rumeurs. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de justement avoir une analyse précise sur des chiffres, sur des comportements de consommation et sur également des comportements de fabricants. Donc moi, je trouve ça plutôt enrichissant de connaître tout ça. Et on verra bien si les prédictions se révèlent complètement erronées, à moitié vraies, à moitié fausses ou complètement bonnes. Donc voilà, et ça, c'est plutôt très intéressant. En tout cas, on n'a jamais été déçus par les analyses de Zex, on tient à le dire.
Et on parie sur quoi alors? On se fait un petit pari là?
Allez.
Ok, on se fait un petit pari. Alors,
je vais me faire engueuler. Si dans la liste de Zex, si dans la liste de Zex, il y en a deux qui sortent, on va tous au Québec et on fait la fête chez lui.
Deux, ça marche.
Avec les coyotes.
Mais ouais, avec les coyotes, avec les grizzlies, avec les tous les trucs. Mais vous êtes 3-4 là à vouloir nous inviter, mais on va venir. Hein. Au bout d'un moment, on va craquer. Hein. Mais franchement, en plus, enfin voilà. Bref, je vote parce que flipper de cœur. Kikichou, Nicolas.
Allez, Kikichou. Oh, il l'a dit. Il s'appelle Kikichou.
T'as dit quoi, Theater of Magic, du coup?
Bah voilà, c'est notre flipper de cœur.
Ah non, mais celui-là, moi effectivement, ils vont pas se faire chier. Pedretti va pas se faire chier avec les licences. Moi je dis ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je dis ça. Donc voilà, Theater of Magic, c'est bien. T'as dit Arabian Nights aussi, hein?
Ah ouais, ouais. Allez, je dis ces deux-là.
Ouais, moi je dis ces deux-là.
Whitewater.
De Popadiuk, du coup.
Ouais, je dis Whitewater, moi.
Ouais.
Whitewater.
Ok, et toi, Zex?
Pour des raisons simples de conception, de coût technologique et tout, prise de risque plutôt modérée, tu veux lancer un premier truc pour sonder le marché, ça me semblerait pas déconnant.
Pour moi, je vais y aller avec Tale of Arabian Night et Safecracker.
Safecracker,
oh non, mais pas Safecracker. C'est mort. Il n'y aura jamais Safecracker. Oh le fou. Attendez.
Il y va son analyse. On parle de logique et de technique. Safecracker, c'est mort, mec. C'est impossible à reproduire aujourd'hui. Le plateau est découpé, c'est même pas la bonne taille.
Là qui ferait l'intérêt. Parce que c'est quelque chose qui est complètement du champ gauche.
Ouais, mais je suis pas sûr que t'aies une si grande hype pour le safe.
Ah, mais moi je l'ai pas en plus. Ah.
Les particuliers, tu sais, t'as les tokens et tous les machins. Enfin, en coût de production, ça serait énorme un truc.
C'est bon, runner.
J'ai envie de vomir.
Il a le droit de dire qu'est-ce qu'il veut.
Il est atroce. C'est surévalué là comme jeu selon moi. Là.
Mais vous savez bien que c'est quelqu'un de particulier, les Québécois déjà, donc vous savez.
Mais mon premier choix, c'est lui que je crois qu'il y a le plus de probabilité qu'il soit remake d'un endroit ou un autre, c'est Tale of Arabian Night. Il vaut tellement cher le flipper. Il n'y a pas de gros droits à payer comme Indiana Jones, par exemple.
Puis il n'est pas compliqué non plus. Hein.
Il n'est pas tant compliqué, exactement. Ils peuvent en produire des milliers d'exemplaires.
Lui, ça marcherait bien. Pas, hein.
Ouais. Sur le marché de l'occasion, vous ne le trouvez pas. Enfin, c'est hyper rare, hein, des annonces.
C'est super rare.
Si Wawa était là, il dirait Theater of Magic.
Ah, Theater of
Magic. Mais il en a déjà un.
Il en a un et il dit meilleur flip tous les temps, il ne vendra jamais le sien.
Ok.
Il est très bien. J'aime beaucoup.
Alors, bon, si ceci dit, si Pedretti sort le Safecracker en premier, on invite Zex à la prochaine Pin and Answer en France.
Tout frais payé.
Non, mais attendez. Détendez-vous.
Attends, la gastronomie.
Le Pin and Answer.
Il n'y a aucune chance. Détends-toi, Nico. C'est bon.
On a des surprises pour le Pin and Answer. Très bien. Vous avez compris que c'était un peu le concept. Le prochain Pin and Answer sera au Québec. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Vous allez voir. Mais en tout cas, ça va être bien. L'avenir, ça va être bien. Oh.
Faudrait faire
Je ne suis même pas au courant, moi.
Un vote parmi tes spectateurs pour savoir, selon eux, lequel...
Mimo, elle est au taquet. Mimo, elle est la spéciale. Ah, Mimo, là, tu lui dis...
On ne devait pas aller se coucher, les gars.
Si, on peut faire un petit sondage. Et 5 minutes, histoire de raconter des conneries. Mimo, est-ce que tu peux nous balancer un petit sondage? Vas-y, balance-nous les 5, parce qu'on ne peut faire que 5, je crois. Selon toi, Zex, les 5 trucs.
Je te dirais Tale of Arabian Night, Circus Voltaire, Theater of Magic... Creature of the Black Lagoon, Whitewater.
Ouais. Ah ouais, du coup, on a viré les licences.
Ok, ouais, alors on va aider Mimo parce qu'il ne connaît pas toutes les licences. Donc on a Theater, je vais le faire en français parce que le Québécois parle mieux anglais que nous. Theater of Magic. Voilà.
Théâtre of Magic.
Ouais, Theater of Magic. Creature of the Black Lagoon. Voilà.
Tu peux dire juste Creature.
Ouais, Creature. Tale of Arabian Night. Voilà. Et c'était quoi les deux autres?
Whitewater,
voilà.
Comme Wet Spirit, mais water, quoi.
Voilà. Et le dernier, c'était quoi?
Circus Voltaire.
Circus Voltaire.
Pour moi, il est un peu trop underground, bizarre, le Circus Voltaire. Je l'aime bien, hein, mais...
Qu'est-ce qu'il est beau.
C'est avec son DMD dans le plateau qui est compliqué.
Qu'est-ce qu'il est oufissime, ce figure.
Tu parles de la tête qui sort ?
Non, le DMD, l'écran sur le plateau.
Il est sur le plateau.
Il n'est pas sur le fronton.
Est-ce que ça serait vraiment un si gros crime que ça si le DMD serait comme les autres plus haut à place d'être...
Oui, dedans, parce que tu dénatures pas une œuvre. Est-ce que tu mettrais une moustache à la Joconde? Non.
Moi, le premier. Hey, vous ne mettez pas de la soupe dessus ou quelque chose comme ça? Mon petit cigare aussi.
Ah, c'est marrant, il y a déjà, là c'est 2-2-2, créature, Whitewater et Theater of Magic. Et alors, moi, créature, vraiment, c'est pas un flipper. Je trouve poussif. Ah, j'aime pas du tout. Hein.
Ah, j'aime bien comment tu as mis Tel. Alors, c'est Tales comme.
Ah, c'est mignon.
Oh, ouais, mais
c'est mignon comme elle écrit Tales of.
Mimo ne change rien.
C'est choupinou.
Super. Voilà. Mais créature, créature, pour moi, c'est vraiment une super franchise. Enfin, le thème me hype à mort. Le flipper, en fait, et on va en parler d'ailleurs. On va parler de Pinsound bientôt. Franchement, la musique, elle est hardcore avec une Pinsound. C'est vraiment génial. Il y a un multi-ball à deux billes. C'est assez rare que ce soit que entre guillemets deux billes. Mais je suis revenu aussi au mois des multi-balls à genre 6 ou 7 billes. Je crois que 2-3 billes, c'est quand même pas mal aussi. Ça peut permettre de beaux trucs.
Pas les perdre trop vite.
Voilà. Mais c'est, le créature, moi, c'est un flipper qui me hype. Mais à jouer, c'est pas évident.
Il est très difficile.
Ouais, c'est pas évident.
On a frisé, hormis toi, tout le monde a frisé.
Mais parce que vous êtes moche. Je suis le seul bon, en fait. C'est ça.
Petit moment d'échange culturel entre Québécois et francophones ou nord-américains et européens. Est-ce que vous avez des ciné-parcs ou des lagunes où est-ce que les voitures vont
sur le driving? Ah, bah non, mais.
Mais c'est pas en drive.
Non, on n'a pas de driving.
Ah, okay.
Nous, on n'a pas créé notre société sur la bagnole, ok?
Zex, faudrait que tu viennes un jour en France pour voir la gueule et l'état des routes, mais même en Europe, en fait, que tu te rendes compte que là, tu vois, c'est différent. C'est pas, on peut pas le tout voiture chez nous. Les routes, elles sont pas foutues comme ça. Le paysage, il est pas adapté.
On n'est pas adapté, nous autres, avec. On les brise, nos voitures, puis on achète d'autres. On les laisse là, on va en acheter un autre. c'est ceux qui reviennent. On a plein de mercenaires canadiens qui sont en Ukraine actuellement, puis ils reviennent. Du Colin, j'ai l'impression d'être au même endroit.
On embrasse nos amis ukrainiens.
C'est incroyable. Oui, oui.
Tous ceux qui nous écoutent.
En tout cas, au niveau vote, ça donne Theater of Magic. Hein.
Eh ben, je suis surpris, aucun pour Circus Voltaire.
Ouais.
Mais non, il est trop chelou. Enfin, moi, je l'aime bien, mais encore une fois, il est chelou. Mais déjà, le nom, Circus Voltaire, ça parle à qui? Pas un Américain. Quoi.
Ouais.
Mais Voltaire, ils savent pas qui c'est. Et c'est quoi le rapport avec le cirque? Moi, j'ai rien compris à ce nom-là.
J'ai rien compris au concept.
Je suis surpris. Pour vrai, 8 Theater of Magic, 3 Creature of the Black Lagoon, j'étais convaincu que ça serait soit Tale of Arabian Night ou Whitewater.
Le Tale, ça se trouve, les gens n'ont pas compris. Sans offense pour Mimo, ça se trouve, le tel, ils n'ont pas compris.
Honnêtement, le Tales of
Jack nous dit que bof bof le circus. Ouais, c'est spécial.
Et le Tales of Arabian Night,
super Mimo.
C'est vrai que le plateau est très chargé, il est joli et tout, mais le jeu en même temps, il n'est pas oufissime. Je préfère de loin le Theater of Magic tous les jours.
Donc le Tales of Arabian Night, tu peux le hacker.
Ah ouais?
Ah bon?
Bah, t'as une mécanique de gameplay pourrie qui fait que tu peux... Mais je crois que Nico t'en parlait d'ailleurs dans ta...
Tu fais tourner la lampe magique et ça te fait réussir l'émission directe.
C'est ça. Donc, en fait, tu peux torcher le flipper très vite. Donc,
c'est pour bon, ça c'est le seul où j'ai atteint le wizard mode, d'ailleurs. Mais...
le Saint-Père nous dit un truc intéressant et je peux comprendre ce qu'il dit. Il nous dit le circus et le flipper avec ma plus grande amplitude, son plus grand delta entre le dégoût et le plaisir. C'est
philosophique, hein.
Ouais, c'est, non, mais c'est, je vois ce qu'il veut dire en plus, parce que c'est un flipper qui est un peu magique. C'est, le thème est complètement farfelu, etc. Le gameplay n'est pas forcément évident non plus, mais c'est un univers. Je comprends. Enfin, moi, ça me parle. En tout cas, ce que tu viens de dire, ça me parle.
Ouais, c'est ça, il fascine. Il est intriguant. T'as envie d'y aller, en fait. Même si c'est bizarre, mais t'as comme envie d'y aller, quoi.
Ouais, ouais. Et puis, si je me souviens bien, il y a des trucs dans le fronton.
Il
y a une mécanique de gameplay.
Il y a une mécanique, ouais, ouais, tout à fait.
Ouais. C'est ça qui va. C'est ça qui va d'ailleurs peut-être l'éliminer de la liste, hein, parce que le truc dans le fronton, un peu chiant à faire.
En fait, en exploit, ce flipper, il fascinait suffisamment pour que tu y mettes ta pièce et il générait suffisamment de dégoût pour que tu n'aies pas envie de remettre une deuxième derrière.
C'est peut-être ça.
C'est pas faux.
Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour, les gars.
Ouais.
Merci pour vos lurks, merci pour vos subs, merci pour vos follow, merci à toutes et tous d'être si nombreux à chaque fois sur nos podcasts, ça nous fait extrêmement plaisir et en plus vous êtes de plus en plus régulièrement aussi nombreux, donc franchement ça nous touche beaucoup. Merci à toutes et tous une fois de plus, on se retrouve dès demain pour jouer à la Jaws avec Wormhole et Patou. D'ici là, bah, jouez au flipper et faites des high scores ou pas. Allez, ciao ciao, salut.
Ciao.
Salut, merci à tout le monde.
Bisous.